Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
On commence avec le chiffre du jour, plus 22%, c'est la hausse de fréquentation des Restos du Cœur cet hiver. L'explosion des prix n'y est évidemment pas étrangère et Alfred, la précarité touche des profils de plus en plus variés.
Oui, ce sont principalement des familles avec de très jeunes enfants qui viennent toquer à la porte. Sur un an, les distributions alimentaires dans les espaces publics ont augmenté de 25%. Pour savoir en fait de qui on parle, sachez que la moitié des personnes accueillies par les restos a moins de 25 ans. Même constat dans les banques alimentaires, la fréquentation a augmenté de 10% en 2022. Une personne sur cinq est en emploi. Ce sont donc des gens qui travaillent, qui ont un salaire, qui viennent quand même demander de l'aide. Le gouvernement se dit conscient du problème. Il vient de lancer un plan baptisé « Mieux manger pour tous ». Dans ce programme, 60 millions d'euros vont être débloqués pour aider les 4 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire. C'est une goutte d'eau pour l'association Famille Rurale qui affirme qu'il faudrait une aide de 7 milliards d'euros chaque année pour permettre aux 9 millions de Français en précarité alimentaire de pouvoir manger sainement et à leur faim.
Face à la flambée des prix, avez-vous peur de basculer dans la précarité? Flambée des prix, c'est pas que l'alimentaire, évidemment, c'est l'énergie, c'est le chauffage, c'est le carburant quand on est travailleur pauvre. Yael, vous nous appelez au 3216 et Yael, je vais d'abord me tourner vers toi. Nous, on a la chance d'avoir un métier, d'avoir un salaire, des salaires convenables, en tout cas, on n'est pas du jour au lendemain menacé par cette précarité, mais on sait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens, on vient d'entendre avec Alfred, peut-être de ceux qui nous écoutent, qui peuvent du jour au lendemain, par le biais d'un accident de la vie, comme on dit, le chômage, un divorce, une séparation, la maladie, qui peuvent de plus en plus sombrer facilement, j'allais dire, dans la précarité. Est-ce que tu en as conscience de ce phénomène-là?
Absolument. Nous, on est évidemment privilégiés. Donc, je n'ai pas peur pour moi, je n'ai pas peur pour nous ici, mais j'ai peur pour une grande, de plus en plus nombreuse partie des Français qui sombrent dans la fragilité et la précarité, une part de la population qui jusqu'à présent n'était pas menacée justement par ces problématiques, cette problématique qui est en réalité celle de manger. Je veux dire, aujourd'hui, les chiffres qu'on a à notre disposition, ils sont absolument catastrophiques. Depuis, en 10 ans, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé. Le nombre de sans-abri a doublé. On est à 330 000 sans-abri, 4 millions de mal logés. Tout ça, ça participe d'une paupérisation de la population qui ne touchait pas forcément la population qui jusqu'à présent était protégée, la classe moyenne. Aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui est touchée, qui n'a plus les moyens de faire face à cette inflation qui explose. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce mois de mars. Aujourd'hui, le fameux mars rouge,
la flambée des prix,
avec la flambée des prix
dans l'alimentaire.
Dans l'alimentaire,
les négociations entre industriels
jusqu'à demain soir,
jusqu'à ce soir.
On peut arriver à des augmentations de 17%, de 20%. Et ce qui me, moi, c'est dans les chiffres qui sont sortis aujourd'hui des Restos du Cœur, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Et c'est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, des femmes avec des enfants, beaucoup de très jeunes enfants. Et encore une fois, ce sont les jeunes, les femmes et les enfants qui sont le plus touchés. Donc, vous avez parlé d'une aide des pouvoirs publics, mais j'ai encore une fois l'impression qu'on ne mesure pas la gravité de ce phénomène. Et quand le peuple a faim, eh ben, on est quand même au début de quelque chose de grave et d'un écroulement possible.
Daniel,
quand tu dis on ne mesure pas la gravité, c'est très bien. Je crois que la semaine dernière, je disais qu'on passe une grande partie de notre temps, pas que sur ce plateau, mais sur énormément de plateaux télé, radio, à essayer de mesurer la gravité des choses. Mais finalement, est-ce qu'on a des explications? Est-ce qu'on a des débuts de solutions? Je ne sais pas si toi tu en as, moi j'en ai pas. Très humblement, on fait face à ce genre de situation, ce genre de discours, sans finalement essayer de comprendre. Moi, la nouvelle, là, de cette augmentation des gens qui ont besoin de l'aide alimentaire, je comprends et je comprends pas. Je comprends, parce que le contexte économique et social nous pousse à le comprendre, l'inflation dont tu as parlé, qui visiblement menace d'être encore plus sévère dans le mois qui va venir. Et je comprends pas parce que on continue d'être le pays roi de la dépense sociale. Donc ça veut dire qu'on aide les gens. Il n'y a pas un autre pays au monde qui donne autant. Ouais. 45,2% des prélèvements obligatoires. Alors on va me dire oui, c'est pas les mêmes caisses, donc ça ne coule pas ça ne coule pas partout pareil. Mais à partir du moment où il y a de la dépense sociale, si je ne t'aide pas pour ça, je t'aide pour ça. Si je t'aide à ce moment-là, je t'aide à un autre moment. Donc l'argent, très honnêtement, je crois qu'énormément d'experts économiques pourraient le dire, l'argent en France coule à flot.
Mais on dépense
mal. Mais où va-t-il?
Ouais.
C'est ça la grande question. On est par richesse par habitant 26e pays au monde. Bon, c'est pas génial quand pour une puissance économique comme la France. La dépense sociale en France, elle absorbe quasiment tout. 33% du PIB global. Quand la défense, la sécurité et la justice, c'est 3%. Ouais, c'est là, visiblement, qu'il y a un problème.
30%, je vais vérifier le chiffre à l'instant, Daniel, tu vois, pour aller dans ton sens, 30% des personnes qui pourraient prétendre à des aides sociales ne les perçoivent pas. Pourquoi pas? Donc, parce qu'elles n'y ont pas droit. Elles ont droit, mais elles ne savent pas.
Quand on est dans la difficulté, c'est souvent parce que on n'a pas de travail. C'est généralement la raison. Quand tu ne peux pas subvenir à tes besoins, c'est la raison principale qui doit te conduire à avoir besoin d'une aide ou de l'aide alimentaire. Et pourtant, le chômage baisse et des offres d'emploi à pourvoir, il y en a énormément.
Il y a des pénuries dans certains secteurs.
Voilà. Donc, tout ce système fait qu'on peut, de l'extérieur comme ça, quand on n'a pas le nez dedans, ne pas comprendre. C'est pour ça que je disais, je comprends puisque je vois, je ne comprends pas quand je sais ce qu'il se passe dans notre économie.
Perico Legas.
On est toujours étonné, en 2023, en République française, d'avoir des gens qui ont recours à la soupe populaire qu'on voyait dans les images d'archives de 1929.
On nous parle même maintenant de chèques alimentaires.
D'accord, mais comment en est-on arrivé là, après les programmes qu'on a mis en place depuis 40 ans, le programme européen, l'Union européenne, enfin, ce marché commun, on nous avait dit que toutes ces tragédies seraient évitées, même s'il y a eu une guerre, même s'il y a eu une épidémie.
La pauvreté baisse partout dans le monde,
Elle baisse partout dans le monde, sauf en France, alors. Alors, il faut me donner l'explication.
Donc, il n'y a pas forcément. Entre l'aide alimentaire et la pauvreté globale, il n'y a pas forcément de lien.
Quel échec pour le libéralisme classique, quel échec pour l'Union européenne, quel aveu d'impuissance. Et enfin, on reconnaît que l'argent ne va pas forcément à ceux à qui il est destiné. Alors, c'est la loi du genre, Ça a toujours été comme ça dans le monde occidental. Parlons pas des pays.
Les dépenses sociales, elles vont à qui?
Mais les dépenses sociales vont à des gens qui les reçoivent. Mais sur quels critères? Sur quelle base? Qui finance? À partir de
donc
quelle
le
richesse?
Le problème, c'est pas l'argent, c'est la répartition.
Alors, à partir de quelle richesse nationale?
C'est la façon dont on utilise l'argent public, c'est ça, Périphérie.
Et d'abord, ça va à qui? Bien sûr. Et qui a droit? Et je vais même poser la question, dans une période où on vous dit les prix augmentent, l'inflation, les matières premières. Est-ce que tous les gens qui vont au restaurant du cœur, est-ce qu'il ne va pas falloir, à un moment donné, que les restaurants du cœur s'assurent de la légitimité de la demande?
Absolument.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on
on ne veut pas faire une sélection.
On ne veut pas le faire parce que
c'est pas possible. On ne va pas guetter au restaurant du cœur.
C'est le principe des restos du cœur. On ne demande pas, on accueille ceux qui viennent.
Avec le risque que des gens qui ne sont pas vraiment nécessiteux d'y aller puissent profiter de cette gratuité. Dès que c'est gratuit,
je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des profiteurs. Vraiment.
Pour aller dans son
Je n'ai pas dit profiteur unique. Je n'ai pas dit que profiteur. Je dis des gens qui peut-être pourraient s'en sortir autrement que d'aller chercher la nourriture gratuite.
Franchement, tu ne vas jamais. Pour avoir
non mais on n'y va pas de gaieté de cœur.
Voilà,
non mais
pour avoir
ça affiche, voilà.
Pour avoir connu des gens.
Il y a des gens que ça gêne
pour
pas.
Pour avoir connu des gens qui travaillaient au Resto du Cœur.
Oui.
Discuter avec eux, franchement, ceux
au début. Je parle de cette année.
C'est la dernière.
On n'y va jamais de gaieté de cœur. Et je peux te dire que les gens qui y vont, pour beaucoup, la première fois qu'ils y vont, ils ont un sentiment de honte, un sentiment de gêne.
Jusqu'à il y a quelques mois, oui. Aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, des paniers premiers et l'inflation, il y a des gens qui peuvent se dire, eh ben moi aussi j'y ai droit.
Allez, on part de la hausse de la fréquentation des Restos du Cœur cet hiver face à la flambée des prix. Avez-vous peur de basculer dans la précarité? Vous nous appelez au 3216 et Bernard est avec nous. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour à vous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Bernard, vous nous appelez de Marseille, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Vous êtes retraité?
Je suis retraité et je suis président d'une association qui fait de l'aide alimentaire d'urgence. Avec une très bonne expérience des Restos du Cœur, parce que j'y étais pendant 9 ans et j'y étais pendant 4 ans président des Bouches-du-Rhône.
C'est quoi le nom de votre association actuelle?
Vendredi 13.
Vendredi 13, d'accord.
Qui a distribué l'année dernière, je peux le dire sereinement, ouais, 509 000 repas, l'équivalent de 500 000 repas. 509 000 exactement.
Sur Marseille ou sur le
sur,
l'ensemble de la
France? Sur Marseille et la Ciotat, oui.
D'accord. Bernard, est-ce que vous avez rencontré de plus en plus de gens autour de vous qui viennent de tomber dans la précarité ou qui craignent d'y tomber?
Alors, il y en a de plus en plus, notamment des personnes, ça a été évoqué un petit peu avant, qui ont déjà un métier, qui était borderline au niveau des revenus, qui s'en sortaient à peu près, et vu l'augmentation du coût des denrées et de l'énergie, mais qui s'en sortent plus, et qui malheureusement sont orientés vers l'aide alimentaire. Alors, la différence avec des grandes associations nationales, c'est que nous ne sommes pas des professionnels pour étudier les dossiers des personnes, on s'appuie systématiquement sur les travailleurs sociaux de toutes les structures de Marseille. Et eux connaissent les familles, connaissent les revenus, connaissent les situations, et c'est eux qui nous orientent le public pour l'aide alimentaire. Mmh. Donc on a une garantie, une garantie par rapport à ça.
Donc de plus en plus, vous dites de bénéficiaires de votre association qui sont des travailleurs pauvres, comme on dit.
Alors, il y a les travailleurs pauvres, il y a les étudiants, hein, on a de plus en plus d'étudiants. Ouais. On distribue à 350 étudiants toutes les semaines. Des familles monoparentales, ça a été évoqué.
Est-ce que vous avez l'occasion...
Quand j'entends qu'une famille monoparentale, elle peut trouver un travail, quand la dame est seule avec 4 enfants en bas âge, je ne sais pas comment elle peut travailler. Et heureusement qu'elle a les aides sociales, qu'elle les touche, et heureusement qu'il y a des associations qui les aident à se nourrir, sinon les gens ne peuvent plus vivre du tout.
Hein. Bernard, vous m'entendez?
Oui.
Bernard?
Oui.
Quand vous rencontrez ces gens directement, ou alors ce que vous rapportent les gens qui travaillent autour de vous, les nouveaux entrants, j'allais dire, dans la précarité, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent, comment on bascule?
En fait, ils arrivent plus à boucler leur fin de mois. Voilà, et ils essayent de se tourner vers l'associatif par tous les moyens. Donc ils se tournent vers l'associatif, et c'est pas systématique, comme je dis, il faut que ça passe par une validation de structures professionnelles pour les orienter. Mais de plus en plus, on a cette typologie. On rencontre même des personnes qui travaillent, qui vivent dans leur voiture, qui dorment dans leur voiture, et qui le lendemain matin vont travailler, et qui viennent aussi récupérer de l'aide alimentaire.
Merci Bernard de votre témoignage. Bernard qui était avec nous au 32-16, qui est donc du côté de Marseille. Arnaud nous rejoint au 32-16. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC et sur RMC Story. Vous êtes viticulteur dans le Var.
Tout à fait, oui, à Grimont exactement.
Bon. Arnaud, vous-même, est-ce que c'est compliqué en ce moment?
Alors non, moi j'ai vraiment la chance de pouvoir gagner ma vie avec mon métier, d'être dans un secteur qui, pour l'instant, on arrive à dégager des marges et à pouvoir vivre convenablement, même si je vous avoue que avec les conditions actuelles et comme vous, enfin le débat c'est ça, c'est les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je me dis que nous qui faisons du vin, à un moment donné, peut-être que le vin, ce sera pas à la priorité des gens. Quoi. Donc malgré que tout va bien aujourd'hui, Provence, aujourd'hui, je me dis que voilà. Ce sera peut-être pas la priorité demain. Donc la précarité, non, j'ai la chance de ne pas la connaître pour l'instant.
Il y a une inquiétude quand même. On sent qu'il y a une inquiétude quand même.
Oui, moi en tout cas particulièrement, je me soucie du fait que les gens aujourd'hui, s'ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger, pourquoi ils vont aller acheter du vin, quoi. Vous voyez, même si c'est un plaisir, même si nos vins de Provence ils sont très bons, et enfin la reconnaissance n'est plus à faire, je veux dire. Mais aujourd'hui, si j'ai pas de quoi m'acheter, de quoi manger ou nourrir mes enfants, je vais pas aller m'acheter une bouteille de vin, quel que soit son prix, vous voyez. Donc, mais c'est vrai que à la base, j'ai envoyé un message que, par rapport à votre débat. Je rentre de mon voyage de noces au Vietnam, j'ai eu cette chance-là, et je me suis rendu compte que là-bas, ils ne vivaient pas du tout de la même façon, au niveau de l'alimentation, tout du moins.